Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 3 février 2016, émission numéro 89 je crois. On approche de la 90e et il est d'ailleurs 14h05, voilà, ça n'a absolument aucun rapport. Christophe Rollin au micro comme tous les mercredis, Gérald est ici comme également tous les mercredis. Et nous avons un invité, Didier Numa-Drose, pour nous parler de peinture. Il le fera avec sa femme qui devrait arriver également, donc ça va être super intéressant picturalement. Et puis voilà, Gérald propose que nous écoutions, pour commencer l'émission, il propose que nous écoutions un titre de David Bowie, un titre extrait de l'album Reality. C'est je crois on dirait Pablo Picasso. Ah bah ouais, forcément, si on parle de peinture, voilà. L'émission est sur Radio Canu, comme vous le savez très bien, c'est le 102.2 de la bande FM. Et si vous écoutez, vous avez également raison de le faire, sur internet, c'est le radiocanu.org. je fais toujours des erreurs en début d'émission. Donc non, ce n'est pas Gérald qui a proposé que nous écoutions Pablo Picasso de David Bowie, décédé, c'était le combien, le 8 janvier, je crois, 2016. C'est un choix de Didier Munadroz, Numadroz, je ne vais pas confondre, Numadroz, N-U-M-A-D-R-O-Z, notre invité, artiste peintre, c'est comme ça que je vous ai qualifié sur le blog, parce que j'ai déjà annoncé cette émission, 89e, spectaculaire. Bientôt la 90e, la 100e. On fera un truc, Gérald, pour la 100e ? On verra.
Bonjour. Chers auditeurs,
bonjour
Didier.
Bonjour.
Et Didier n'est pas seul, il est arrivé en force.
En excellente compagnie.
Puisque nous avons aussi, ici présente, Geneviève Garcia Gallo, qui elle aussi est aussi artiste, ainsi
que Violette.
Que leur petite Violette. Fille, une de leurs petites filles peut-être.
D'accord, ouais. Bon. Petit problème.
On va s'occuper de tout ça. Donc, début d'émission, avant d'annoncer l'exposition qui aura lieu dans la galerie, j'ai mangé...
Jean-Louis Mondon.
Qui est à quel endroit ? Sur les pentes ?
Vers la fac catholique.
Rue Vaubecourt. Au début de la rue Vaubecourt. Hein, voilà.
Après la fac Cato.
Voilà.
Dans le centre de Lyon, dans le...
Deuxième.
Voilà.
Et alors, avant d'évoquer cette actualité, donc ce sera au mois de mars, hein, je crois, c'est ça ?
Le 11 mars, vernissage. Voilà. Donc, c'est l'expo tout le corps en mars.
Eh bien, pour commencer l'émission, Gérald, nous demandons à notre invité de...
Le rituel habituel.
de se présenter, de parler, de brosser son portrait. Ah ouais, tiens, très bien, terme de peinture. Donc je vous en prie, Didier, pourriez-vous nous indiquer, je ne sais pas, ce que vous avez fait, non pas peut-être avant la peinture, mais ce qui vous a conduit à la peinture, où étaient vos jeunes années.
Moi, ça fait longtemps quand même que je peins. Oui. J'ai quand même 62 ans, donc ça fait une petite... ça fait plus de 40 ans, quoi. Ça fait 45 ans que je peins.
On appelle ça de l'expérience.
Oui,
c'est d'expérience.
Voilà, c'est ça.
Vous êtes très sage.
Pour rendre les choses. Ouais, non, puis de toute façon, là... Plus on travaille, mieux c'est quand même, quoi. Dans ces genres de métiers-là, il faut quand même une espèce de... Il faut que le temps puisse se sentir, il faut que le temps puisse créer l'humus, le terreau favorable aussi à la création, hein, même si on a peut-être un petit peu moins d'énergie à la fin de la vie qu'au début. Il y a quand même une maturité qui fait que il y a des bonnes choses qui sortent quand même, quoi. Et on a toujours une énergie quand même.
Et alors, comment y êtes-vous venu il y a donc une quarantaine,
ouais,
cinquantaine d'années ?
45 ans, je sais pas, c'était un peu le milieu quand même, c'était un petit peu une histoire familiale, ma mère faisait du piano, elle était pianiste, mon père était prof, mais il faisait aussi de la peinture, mon frère, mon grand-père peignait aussi, enfin, il y a un petit côté, sans doute, il y a une petite hérédité familiale qui était quelque chose d'assez facile quand même à ce niveau-là. Il s'agissait de prendre le vent, quoi, à ce moment-là, quoi, et puis on m'a laissé prendre le vent comme je le voulais, quoi. Mais, bon, enfin, j'ai enseigné toute ma vie, hein. J'ai enseigné pendant 40 ans les arts plastiques aussi, quoi, ce qui m'a permis de transmettre un peu la passion que j'avais. Voilà.
Mais l'enseignement était un atout, une force, un handicap
C'était pas un handicap du tout, non, ça a été un atout, ça a été une vie parallèle, je dirais, ça a été un enrichissement, une sorte de redondance, mais un enrichissement de l'un à l'autre, un passage régulier de l'enseignement, de la transmission du savoir, et puis de l'énergie que donnaient les élèves aussi, quoi, cette espèce d'énergie qui se renouvelle tous les ans. C'est fabuleux, l'enseignement, on voit pas le temps passé, c'est un petit problème, hein, parce que tous les ans, on a des gens qui ont le même âge en face de soi, quoi. Pendant 40 ans, on a les mêmes têtes, quoi. Donc c'est... Enfin, pas les mêmes têtes, mais la même énergie et la même jeunesse, quoi. Donc c'est vrai que ça vous porte un peu aussi, quand même.
Mais on sent pas l'écart se creuser ? C'était un public plutôt âgé, intéressé, motivé ?
Bah, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai travaillé dans des collèges. Après, je me suis retrouvé juste derrière, dans le lycée La Martinière, en art appliqué. C'est vrai que c'était des gens sélectionnés, plutôt motivés par l'art, très 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 à l'écoute, et très 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 proche, on était très proche en plus, parce que c'est vrai que c'était des gens qui avaient un petit peu la même volonté de créer dès le départ, et qui avaient la chance de d'être conscients de que cette école là leur en donnerait les moyens, surtout, quoi. Donc on était dans un rapport très très positif avec entre les rapports prof élève. Ça, c'était un atout. Je suis resté presque 30 ans à La Martinière. manière, et c'est vrai qu'on s'use quand même peut-être moins qu'ailleurs, ça c'est évident. Enfin, tout au moins le désir de transmettre et la pédagogie, vous vous use pas de la même manière que dans d'autres contextes scolaires.
Ça, on a la chance de transmettre sa passion dans le meilleur des cas, dans des bonnes conditions.
Complètement, absolument.
Une forme de l'enseignement vu comme une fontaine de jouvence, c'est intéressant. Il me semble que ce qui peut être bien de ce que j'entends, de ce que vous dites, l'enseignement comme éventuellement peut-être qui peut aider pour une conceptualisation éventuellement, mais pour ce qui est de l'inspiration, est-ce qu'on a évoqué de l'histoire avec ces différentes durées ou âges qu'on a indiquées, 62 ans, 40, 45 ans, ces choses-là. Et en termes géographiques, est-ce que tout s'est fait à Lyon? Vous avez donc évoqué la Martinière qui est non loin de la place Satonnet, où se trouvent nos studios. Venez donc, auditeurs, vous allez voir, en plus aujourd'hui c'est une émission super particulière, donc c'est juste à côté de la Martinière, et avant cela, par exemple, même votre naissance, vous êtes de la région?
Non, alors je suis né en Bretagne, moi. J'ai vécu en Bretagne, à Rennes principalement.
C'est pas la côte.
Jusqu'à 23, 24 ans, puis le bord de mer aussi, vers Saint-Malo, dans le pays, un petit peu de cette partie de l'Ille-et-Vilaine qui entre la Normandie et les Côtes d'Armor, et que je connais bien, mais qui a eu très peu d'influence sur ma production picturale, parce que je peins principalement, je suis fasciné par le paysage, et le paysage principalement vraiment de l'intérieur de la France, que j'ai trouvé. Mon premier poste, ça a été à Marcigny, en Brionnais, quand je suis arrivé en 76, et j'ai eu un choc complet en découvrant ces paysages, ces espèces de bocages ouverts et avec ces ouvertures vers l'ouest, ces grandes lignes bleues de montagne de, au-dessus des monts de la Madeleine. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait un choc et je suis resté toute ma vie plongé dans ces paysages-là. Quoi.
Saint-Martin-du-Lac, c'est étonnant, Digoin, ou qu'est-ce qu'il y a encore, Anzy-le-Duc.
Voilà, très bien, bravo.
Par El Monial, on peut pousser jusqu'à...
Les églises romanes, voilà. Où il y a, en même temps, c'est la dernière... Le dernier bastion de la riche culture bourguignonne du 14 et du 15e qui restait à l'extrême sud de la Bourgogne. Et le paysage a été marqué par cette histoire de la Bourgogne et ce réticulage des champs et des parcelles.
Le Brionnais, elle est pas loin.
Le Brionnais, c'est ça.
Et l'architecture est typique, parce que l'architecture est encore belle,
Tout à fait, voilà. On est encore dans de l'architecture bourguignonne avec un sous-sol qui est du calcaire, du beau calcaire jaune, et c'est vrai que ça crée un univers particulier.
Et c'est un coup de foudre au point d'en oublier les beaux paysages bretons.
Ah ouais, les paysages m'intéressaient pas du tout. Quand j'ai fait mes études à Rennes et je faisais, c'était la période de support surface. Hein. J'étais très support surface. Je peignais des grandes abstractions. Je peignais des grandes teintures. Je teignais, je déteignais. Je travaillais à la loupe de Javel. Et je suis arrivé à Marcigny dans le Brionnais et ça a été le choc total et la révélation. J'ai cru me retrouver plongé dans une miniature ou des riches durs des ordres du duc de Berry ou bien à la limite dans un tableau de Van Eyck, quoi. Je me suis retrouvé plongé dans une espèce d'histoire de la peinture qui était encore là, quoi, présent.
Patinir aussi.
Patinir, c'est un très bien, c'est un de mes maîtres préférés.
Donc alors, c'est retour à la figuration, c'est curieux, parce que support-surface, les auditeurs, on pourrait le caractériser par un retour aux gestes minimaux de l'art, dans un esprit du faire artisanal, mais aussi très conceptuel.
Ouais.
Bon, via là le plus connu, les éponges, l'empreinte, le geste répété, voilà, les œufs et d'autres.
À cette époque-là, des carrés presque.
Toroni avec ses nappes brûlées, etc.
Mais c'est vrai que c'est la même période, quoi. C'est une abstraction essentielle, quoi, qui va à l'essentiel du geste de la peinture. La trace, un élément répétitif, des formes minimalistes influencées par la peinture américaine de l'époque aussi, hein, la peinture minimaliste.
Collectionné dès le début, Bernard Cesson, le premier conservateur du musée de Saint-Étienne, d'ailleurs.
Voilà,
je crois que Saint-Étienne a une des plus grandes collections de supports surface.
Ouais, de supports
en France, voire.
Il y en a pas mal dans le sud aussi, parce qu'il y avait quand même des gens dans le midi aussi.
Et donc, c'est des vrais paysages réels qui ont opéré un retour à la figuration.
C'est ça. Donc, j'étais dans une direction très intellectualiste et minimaliste de l'art, liée à mes études aussi, que j'avais fait quand même, qui étaient des études d'art plastique, et à l'époque, c'était la toute nouvelle mouture. Hein. On est passé d'un coup du prof de dessin au prof d'art plastique. Et ça ne s'est pas fait non plus sans cassure, sans brisure. C'était juste après 68. Moi, je suis rentré en 60. J'ai eu mon bac en 70. Je suis rentré en 71.
Et 71, c'est l'année précisément où le terme prof de dessin est devenu professeur d'art plastique.
Voilà,
pour les premiers professeurs d'art plastique.
Voilà, donc j'ai fait la première session et j'ai eu mon CAPES en 75. Et voilà, j'ai eu mon poste en 76 à Marcigny et je suis arrivé dans le coin. J'en suis plus reparti réellement, quoi, parce que j'ai fait tout. Je suis tombé vraiment dans cet univers sans nostalgie en réalité, parce que je m'attendais pas du tout à ce choc-là, puisque c'était des paysages que je ne connaissais qu'à travers la peinture, dans le fond. Je connaissais absolument pas la réalité de ces paysages-là. Mm-hmm. Je pensais pas que ça existait encore, et ça m'intéressait pas du tout d'ailleurs. Donc j'ai eu un choc d'autant plus violent et dans lequel je suis toujours 40 ans après, quoi.
Mmh. Est-ce que, Gérald, je me demande, ou bien Didier aussi, est-ce que l'exposition qui a eu lieu, je crois, au Musée des Beaux-Arts 98 peut-être, ou éventuellement 2000, l'école de Barbizon, ces paysages-là, est-ce que ça n'est pas entre la Bretagne et Marcigny,
oui,
peut-être
c'est ça, l'école de Barbizon, oui, Barbizon, ça fait partie de la forêt de Fontainebleau,
plus bas, ouais, je pensais que c'était la Loire un peu.
Voilà, non c'est pas. Simplement, l'école de Barbizon, c'est l'école qui, historiquement, a devancé l'impressionnisme, c'est les premiers peintres qui ont été peintres devant la réalité, devant le motif. Mmh. Hein, c'est les peintres qui sont sortis de leur atelier et qui ont planté, qui sont partis avec leur chevalet de campagne, planter leur chevalet devant les beaux chênes de la forêt, devant les chaos granitiques de la forêt de Fontainebleau, et qui ont essayé de transmettre une expression, je dirais, que c'est pas non plus, ils peignaient pas un paysage comme un décor, ils peignaient un paysage comme un moment d'intériorité quand même, quoi.
Sans le prétexte mythologique qui avait préexisté jusque-là.
Sans le prétexte mythologique, mais dans la lignée, je dirais, des grands paysagistes allemands et des romantiques, quoi, quand même. Plutôt, l'époque de Barbizon est intéressante parce qu'elle fait vraiment le lien entre ce que va être la peinture impressionniste, la peinture de plein air, et en même temps
le romantisme précédent,
les romantiques très intellectuels où le paysage justement signifiait une espèce de une puissance symbolique très très forte, quoi.
Ce sont les Jean-Baptiste Camille Corot, c'est ça, et puis d'autres,
oui, Henri de Valenciennes, un des premiers, je crois.
Henri de Valenciennes, Camille Corot,
Diaz
de la Peña, et puis Théodore Rousseau,
ah oui, un grand,
le grand c'est
le, et puis Corot le plus connu, romantique,
c'est à dire que si Corot il était un petit peu plus âgé qu'eux. Il a fait ses classes en Italie, il a beaucoup peint dans la région romaine,
oui,
aussi. Il est arrivé un peu par Barbizon après, mais il n'y a pas vécu. C'est Millet qui a fait son atelier à Barbizon et qui a vécu là-bas avec sa famille. Ils venaient se ressouiller aussi tous, hein, les peintres là-bas.
Il faut préciser que cette nouvelle pratique de peindre sur le motif est quand même liée à une invention technologique qu'on a tendance à oublier, qui est la peinture.
En tube. Ça c'est vrai. Tout bête, hein, tout bête. Maintenant, c'est vrai.
Parce qu'après, avant, c'était des ateliers. Il fallait broyer la couleur, le pigment lié. C'était tout un.
Et puis on le met. Oui, et le dentifrice aussi n'existait pas en tube, donc on se mélangeait les pinceaux souvent.
Bon. Et là, nous sommes en train de manquer de la correction la plus élémentaire, puisque nous conversons entre hommes. On se croirait la présélection d'Angoulême, peut-être, c'est ça, festival de la BD qui s'est donc terminé. Et nous ne laissons pas parler ni Violette ni Geneviève. Violette, non. Elle va dessiner.
Intimidée par les micros.
Voilà, elle va peindre. Mais Geneviève, vous avez sûrement beaucoup à dire. Geneviève Garcia-Gallo sur également votre parcours de peintre. Ou est-ce qu'on écoute maintenant le titre de ces Feu Chatterton, c'est ça qui est prévu, ou c'est qu'est-ce que c'est?
Chatterton, là. Oui. C'est un groupe français très actuel qui fait une très très bonne musique, des superbes textes, une musique très très originale, très inventive. Je vous conseille de la passer régulièrement quand même.
Bon, alors on va le faire maintenant. Ou Geneviève, est-ce que vous avez. Vous connaissez vous aussi ce Feu Chatterton?
Oui.
Bon, et bien alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'écoute et vous allez nous en parler dans quelques instants. Il est quoi, 14h23, voilà, j'en dis comme ça l'heure, c'est sur Radio Canu, c'est très bien. Vous nous écoutez sur le 102.2, voilà, je le répète comme en début d'émission.
Vers Harlem, À 19h, l'office protestant commence dans un temple tout à fait moderne et particulièrement laid. La mer Katique est partout et les Américains s'avifèrent pour aller chez le chaland. Les enceintes devant l'église retransmettent la cérémonie. Le gospel bat son plein et des hommes de paroisse nous remettent des fascicules sur le bien, le mal et Satan. Avant que nous nous asseyions sur le banc des communions. Il n'y a que des noirs dans l'assemblée, hormis un groupe de touristes espagnols. Sur la scène, quatre choristes font des harmonies de spiritual derrière un pasteur amplifié qui harangue les fidèles. Le pasteur parle vite et je ne comprends pas tout. Au milieu des « Amen, Amen, Amen » il dit « Peut-être qu'aujourd'hui rien de ce que tu penses ne mérite le nom de fleur. Mais demain, demain, demain tu t'éveilleras sans doute sous un arbre fruitier comme jadis Jonas sous le ricin. » Il dit « Ce n'est pas le froid mais la honte qui a donné le manteau. Qu'un kidam marchait droit mais qu'à cause de la mer il s'est assis, que tout était gros doux comme chez le traiteur chinois, et qu'il faut honorer le nom de son père. Je ne comprends pas tout. Je crois voir une déesse de muscles et de courbes quand il dit que les statues aussi verdissent, et que leurs couronnes sont un perchoir pour les pigeons, que jalouser l'éternité des statues, c'est envier la fiente sur leurs épaules et celle qui jonche leur piédestal. Alors je pense à la déesse nue et je vois léviter près de sa chevelure un moineau écarlate. Je vois la déesse nue et ses fesses qui avant dansaient. Puis la nuit tombe, dans le mobile on a traversé les âges. La fille est partie à Harlem, à Harlem c'était parce qu'il y a. Puis la nuit tombe, la fille est partie à Harlem. À Harlem, c'était presque hier. Times Square est autour des sangs. On a du mal à croire à une ferveur aussi démonstrative, qui ne ressemble pas d'ailleurs à cette ferveur contagieuse que je connais, celle des baisers véritables. Le spectacle ecclésiaste ne touche pas au cœur, il divertit. Et tout le monde chante. Et tout le monde chante. Est-ce la clarté ou rien que de l'espace après un massacre, dit-il. A-t-on coupé, brûlé des arbres pour avoir cette clairière-là, comme une piscine dans le jardin d'un pavillon de banlieue. Ou bien sommes-nous tombés dessus, par hasard. Fausse piste, trouvaille, dilemme, tenaille, écrou, ciel, muraille, des pensées.
Il en reste encore à peu près 3 minutes, je crois, mais c'est trop, puisque depuis le début de l'émission, Geneviève est présente avec nous, Geneviève Garcia-Gallo, et nous ne l'avons pas encore entendue. Ça peut être la matière d'une première question. Geneviève, pourquoi écouter ce feu Chatterton, ou disons à défaut de pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît, ce groupe français? Ils sont bretons, non? Ils sont de quel endroit? Je ne sais même plus.
Bah moi, justement, moi j'aime beaucoup la musique française, et puis il y a un grand manque après Bachung, donc dès qu'il y a un bon groupe français qui sort, j'essaye de l'écouter, de le savourer. Mais bon, on peut revenir à la peinture.
Ou bien, oui.
Moi, j'ai pas tout à fait le même parcours que Didier. Je suis née au Maroc. Et là, il n'y avait pas vraiment de musée ni de galerie, mais j'ai toujours été passionnée par le dessin. Toute petite, je dessinais, mais tout le temps, tout le temps. Et à 14 ans, j'ai eu une chance inouïe de faire une très belle rencontre. Mon professeur de dessin qui arrivait de Paris, j'étais au lycée Descartes, donc à Rabat. Et on a accroché, et puis elle a vu tout de suite que j'avais quelque chose en dessin, donc elle m'a orientée et m'a poussée à poursuivre. Et bon, voilà, je suis restée jusqu'à 18 ans au Maroc, et puis quand je suis arrivée en France, alors là, ça a été le choc total, ça a été la découverte des galeries, je passais mon temps dans les galeries, dans les musées. Et donc j'ai fait les arts appliqués. À la suite des arts appliqués, j'ai fait des petits boulots de pub dans les MJC, etc. Et puis après j'ai été professeur aux arts appliqués. Donc mes collègues sont devenus, enfin mes profs sont devenus mes collègues. Et puis voilà, j'ai enseigné pas mal d'années. Et puis après, je suis passée au cours du soir des Beaux-Arts. Donc j'étais professeure de peinture et de modèle vivant. Voilà, pendant plus de 15 ans. Et voilà, ma première exposition, je l'ai faite à 20 ans, mais c'était une expo collective. Et puis à 25 ans, j'ai commencé à faire des expos perso. Et puis voilà, depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Tous les deux ans, je présente une nouvelle exposition avec des thèmes différents. Voilà, l'humain m'intéresse, donc j'ai fait beaucoup de portraits, de nus, mais le paysage me fascine. Et mes dernières expositions étaient plus tournées vers le paysage, parce qu'avec Didier, donc mon époux, Numadrose, nous avons une jolie petite maison à la campagne, et là, nos promenades nous ont beaucoup influencés pour peindre des magnifiques paysages. Donc, il y a 4 ans, j'ai fait une grosse expo sur Lyon, c'était l'appel de la forêt. Et puis, 2 ans après, c'était la fluidité. C'était des grands sapins qui se reflétaient dans des flaques d'eau. Et là, mais actuellement, je suis sur un autre thème et je vais exposer aussi à la galerie Jean-Louis Mandon en novembre.
Vous allez vous suivre.
Voilà.
Toujours le parcours similaire, parallèle, de l'enseignement,
puis,
de la transmission, de l'art, du paysage et de la figuration, du coup.
Oui, absolument.
Surtout une optique figurative.
Et puis, on s'est rencontrés en 2006. Et en 2008, on a fait une quarantaine d'œuvres communes sur le paysage, et où moi, je peignais le ciel et puis Didier la terre.
Incroyable. À l'ancienne, quoi.
À l'ancienne.
Vous répondez dans les anciens ateliers.
Vous répondez à une question que je me posais. Est-ce qu'effectivement, est-ce que vous êtes arrivé
à
peindre
à
deux mains?
Bah
alors,
piano,
ah oui, c'est quatre mains ou deux mains?
Demain,
c'est
demain,
plutôt demain quand même.
Quatre mains, c'est pour
oui,
la musique,
c'est ça,
quand même.
L'avantage.
Là, c'est quand même que du demain, mais un peintre peint rarement avec ses deux mains lui-même. Hein,
ouais,
droitier ou gaucher, c'est un peu rare qu'il peigne avec les deux. Même, c'est des bricoleurs qui bricolent avec leurs deux mains.
Ou les actionnistes, les performeurs.
Les performeurs, voilà.
Ou alors, Gérald, tu as raison, à quatre mains, en ce cas, c'est un atelier.
Là, oui, et puis c'est renoué encore avec la tradition, puisqu'il y avait le spécialiste des mains, le maître de tous les ateliers qui étaient des petites PME à la Renaissance.
Ouais,
on laissait la partie la plus importante du visage au maître. Voilà, on dit école souvent sous les tableaux, c'est école de Rubens. Ils n'ont pas peint non plus 10 000 tableaux.
Normalement, Didier, quand il peint ses ciels, c'est des ciels très purs, très lisses, très doux, et moi, ce sont des ciels plutôt tourmentés. Avec beaucoup de mouvements, donc on a lié les deux, le ciel et la terre, et on a fait une expo à deux à Montpellier, on les a présentés à Lyon aussi, on les a présentés en Allemagne.
À Koblenz.
À Koblenz.
Et à Fribourg.
Et à Fribourg.
L'été dernier.
Voilà.
Ouais, on bouge un petit peu. Quand
une manière de renouer avec le romantisme allemand.
Un peu, oui.
Le paysage est toujours apprécié finalement.
Oui, tout à fait. En Allemagne, oui, il y a... le paysage, il va être l'aide de plus en plus. On peut pas se passer du paysage. Enfin, je veux dire, on est l'écologie, c'est ça quand même aussi, d'une certaine manière.
Sans compter que le paysage peut être urbain, très laid.
Alors, le paysage d'usine peut être tellement détruit, ça.
Le paysage contemporain aussi.
Moi, généralement, je peins des paysages un peu idéalisés. Je peins des paysages, c'est vrai, qui nous replongent dans une forme de nostalgie du paysage.
De la nature.
Et de la nature, quand même.
Ouais.
Et une nature un petit peu domestiquée quand même, parce que je peins rarement ma prochaine expo à Paris en mai, ça sera sur les volcans. Donc on est sur une nature où il n'y a aucune trace d'homme, c'est quand même un monde qui est avant ou après l'humain, mais pré ou post-humain,
parce que
les volcans sont quand même un peu plus costauds que nous, je pense. Hein. S'ils se remettent à vouloir montrer leur puissance, on n'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe aux forces telluriques qui sont sous nos pieds. Bon, le volcan, je le prends plutôt comme une métaphore de notre monde actuel, quand même, où on est quand même sur...
Explosif.
On est assez proche. Alors, les volcans que je peins et que je vais montrer à Paris sont absolument pas en éruption, mais ils sont...
Ça couvre.
Ils sont une espèce de... Ouais, il y a une menace, il y a des fumerolles, on sent que l'explosion est pas très très lointaine, quoi. Donc, voilà.
Vous parliez, Geneviève, il y a quelques instants de thèmes. Vous, il me semble, Didier, ce que vous évoquez, ce serait en termes de série peut-être. Est-ce que comment cela fonctionne-t-il? Ce sont parfois des commandes qui peuvent être réalisées ou c'est... enfin, voilà, je dis série parce que vous parlez de volcan. Vous allez en peindre combien de tableaux, combien de toiles? 5, 10, 15 ou c'est...
La plupart du temps, c'est pas des commandes du tout. C'est nous-mêmes, en tant qu'artistes, qui nous mettons nos propres contraintes, nos propres thématiques et le proposons aux galeristes. On travaille avec un certain nombre de galeries. En allemand, on a parlé de l'Allemagne. Moi, j'ai une galerie à Paris aussi, une en Belgique. Geneviève a sa galerie, à la galerie Emiliani dans la Drôme. La galerie de Mandon aussi, donc en fonction, à chaque fois qu'il y a une expo qui se prépare, on a envie de se jeter dans quelque chose de nouveau quand même, même s'il y a une continuité, on a envie de se donner une espèce de je dirais de but un petit peu motivant et différent surtout quoi.
On pourrait dire que votre liberté, c'est de vous donner vous-même vos propres contraintes.
C'est un peu ça, quoi.
Mmh, vous n'êtes pas forcément appelé à toujours vendre, ou vous pourriez vous passer de vendre vos tableaux.
On peut se passer de vendre dans la mesure où on s'est toujours mis de côté. Enfin, on a toujours fait en sorte d'être autonome financièrement, voilà, par rapport à la nature.
Ce qui est une liberté, même, d'où l'enseignement.
C'est quand même
une
grande liberté, quoi. Alors, l'enseignement, c'est vrai que ça a été pour moi une passion. Ça a été quand même quelque chose, un rapport humain particulièrement fort et pertinent pendant les 40 ans, mais en même temps la peinture était aussi une passion, je veux dire, mais bon, la peinture m'aurait pas toujours permis de vivre. Mmh,
c'est une garantie aussi de liberté.
C'est une garantie de liberté, quoi, c'est vrai.
Les thèmes, donc pour vous, Geneviève, vous... C'est également, enfin, comment dire, moi, c'est encore une idée un peu de chiffres. Ce que j'attendrais, c'est donc combien de toiles réalisez-vous? Enfin, c'est là pour la prochaine, pour le mois de novembre. Vous avez donc déjà
un... Moi, il me faut quand même pas mal de temps. Je m'octroie une année et demie pour préparer une exposition et j'enchaîne les thèmes. Un thème en appelle un autre. Bon, par exemple, pour mon exposition sur l'appel de la forêt, c'était nos balades dans nos paysages qu'on adore. Et là, j'ai vraiment travaillé...
Le Haut-Beaujolais, je précise.
Le Haut-Beaujolais.
Juste la limite du Rhône et de la Saône-et-Loire.
C'était une vision très proche, en fait, où je travaillais l'écorce, la texture des arbres, des feuilles. Puis petit à petit, je me suis un petit peu éloignée et j'ai regardé, j'avais une vision un peu plus large de la forêt et qui m'a amenée à travailler sur les reflets. En fait, un thème en entraîne un autre. Voilà, donc je travaille un an et demi sur une thématique que je choisis. Hein. Et puis après, je passais une autre. Et après, avec nos balades, et puis la vie qui change aussi, m'amène à autre chose.
Ouais, tu fais une quarantaine, une cinquantaine d'œuvres à peu près.
Voilà, je fais une cinquantaine de tableaux pour avoir le choix.
Quoi, à peu près.
Pour avoir le choix...
Ah oui, les formats.
Oui, on va parler d'un peu de technique, parce qu'on ne sait même pas s'il peigne à l'huile, à l'aquarelle, comme Turner.
C'est vrai.
C'est la gouache. Alors, et en plus, il y a des techniques très particulières, il me semble.
Alors moi je parle, Geneviève et moi est très 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 technique, très créative dans la technique. Moi beaucoup moins. Moi j'ai appris à peindre comme un autodidacte, par exemple, parce que j'ai fait des études d'art plastique dans les années 70. On était dans une période abstraite, conceptuelle. On n'apprenait absolument plus le dessin. On n'apprenait pas à regarder. On n'apprenait pas à ressentir d'émotions par rapport à la peinture. On était vraiment dans une approche très très théorique et historique de l'art.
Hein. On parlait beaucoup.
On
déstructuralisait.
Exactement. Très très linguistique. Si on n'avait pas une unité de valeur de linguistique, on passait pour des cons, quoi. Enfin, voilà, tous les ans, il fallait remettre.
C'était peut-être un mépris même de la peinture, au sens classique du terme.
Complètement.
On disait que c'était la fin de la peinture.
Ah bon, on était vraiment dans cette
conceptualisation.
Ouais. On était là-dedans. Et du coup, moi, quand je me suis retrouvé tout paumé que j'étais dans le Brionnais, en 76, loin de la fac, loin des copains, loin de la mouvance un peu intellectuelle, je connaissais pas du tout la région. Je connaissais pas Lyon, je connaissais pas ma Mâcon, donc j'étais à Marcigny, j'étais prof 6 jours par semaine quasiment, parce que j'avais des emplois du temps pourris au départ, quand on accepte un
comme
peu tout.
Comme tout le monde.
Hein, comme tout le monde. Et quand on a un petit peu d'énergie, on regarde autour de soi, on se balade, et là, c'est là que j'ai eu envie de peindre que du paysage, mais j'avais pas du tout de culture, j'avais pas de technique absolument picturale, donc je me suis mis à acheter de la peinture à l'huile, parce que c'était peut-être ce qui avait de plus simple, et de ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais obtenir comme effet, des glacis, des transparences, comme la peinture du 15e, comme la peinture des primitifs flamands, par exemple, quoi. Donc c'est en regardant plus la peinture du musée, et en essayant de les copier, de comprendre leur démarche, que je suis arrivé à la technique que j'ai aujourd'hui. Moi, c'est de la peinture à l'huile toujours, hein, mais bon,
parfois
c'est sur du bois, sur des supports
sous
de
des
bois.
Verres, hein. Non.
Alors il y a aussi une autre partie de mon travail qui est des fixés sous verre, mais je peins toujours à l'huile, moi, que ça soit sur tous les matériaux. Pendant les années 80, je vous en parlerai peut-être un peu tout à l'heure parce que j'ai encore des choses à dire, mais Geneviève, elle a des recherches plus poussées dans la technique de l'huile, hein.
Oui, moi j'aime bien la toile aussi comme support, la toile, le verre, le bois. Souvent au départ de mes thèmes, je fais pas mal de monotypes qui me libèrent. Bon, alors là, je vais pas expliquer toute la technique du monotype.
Et pourquoi pas?
On va dire que c'est une impression.
Voilà, c'est une impression en fait. Bon, je peins sur du verre. Il faut un support très très lisse. Bon, j'ai essayé à la gouache, à l'acrylique, mais bon, ça sèche un peu trop vite. Donc à l'huile, on a le temps quand même de peindre. Bon, par exemple, je peins un portrait sur une vitre, et puis après, je l'imprime. Je prends une feuille de papier et je mets cette feuille de papier sur ma vitre. Et puis là, il y a un côté assez magique, un peu aléatoire, parce qu'il suffit qu'on bouge un petit peu et on a toujours la surprise. Et quand on retourne la feuille, et ben voilà, ça c'est un
peu. Il y a des calcomanies quand même.
Donc voilà, il y a beaucoup de liberté, parce qu'on peut en faire, en faire, en faire. Et puis ça libère le geste. Et après ça, j'attaque aussi l'huile sur des formats un peu plus grands.
Ah, des monotypes pour travailler.
Quelle dimension
Moi je varie, hein, et je fais toujours des petites séries, mais autrement j'aime bien.
3 mètres sur 7 mètres comme ça.
Non, quand même pas. Non, mais bon, il y a pas mal de 80 par 80, des 100 par 100. Alors bien sûr, il m'est arrivé de faire des 150 par. Par 2 mètres, mais c'est le grand maximum. C'est le stockage aussi qui est complexe, et puis pour transporter les toiles.
Ce qui est magique, est-ce que le paysage ne nécessite pas forcément la monumentalité? La monumentalité au sens de grand format, d'échelle monumentale, c'était surtout mis à la mode par les Américains dans les années 50. Et comme disait Charles Baudelaire, dans ses écrits esthétiques, il considérait que la peinture était supérieure à la sculpture, puisque la peinture, même de tout petit format, notamment à travers un paysage de Patinir, de Van Eyck ou d'autres, permettait de recréer tout un univers dans lequel on pouvait rentrer, on pouvait habiter cet espace, même miniature. Alors que la culture partage le même espace corporel, tridimensionnel que le spectateur, du coup ça affaiblit les sensations. Il n'y a pas cette dimension projective dans le... Absolument. On rentre dans un univers, même si le format est tout petit. C'est peut-être la supériorité du paysage.
Absolument. Oui, ben moi-même, quand je suis arrivé à Lyon, je peignais des formats qui étaient minuscules, quoi. Pendant une quinzaine d'années, j'étais connu.
Type miniaturiste.
J'étais connu pour être une sorte de miniaturiste du paysage. D'ailleurs, je parsemais la ville de petits paysages que je peignais. À l'époque, ça se faisait pas du tout, quand même. Je peignais à l'huile, en plus. Je peignais à l'huile dans la montée Nicolas de Lange, la montée des Carmes des Chaussées, ou dans le bas de la Presqu'île, sur des gouttières, des plaques d'égout, des choses comme ça. J'en ferai encore, et j'en ai fait encore. Il en reste encore quelques traces, parce que c'est de la peinture à l'huile et que ça dure longtemps. Mais bon, ça c'était parce que quand je suis arrivé en ville, j'avais aussi une espèce de nostalgie de la campagne, et du coup j'avais emmené quelques petits fragments d'images de la campagne que je réintégrais sur des petits lieux. Bon, il faut dire que la ville de Lyon était quand même elle avait pas du tout cette esthétique de la propreté quand même, hein. Quand on visitait le Vieux Lyon à l'époque, c'était quand même des zones comme les pentes de la Croix-Rousse, ça faisait un petit peu peur, c'est assez sinistre quand même, hein. Il y avait des patines, des mousses, il y avait un charme, hein, c'est évident, mais c'était il y avait une sorte de texture usée de la ville qu'elle a plus du tout maintenant. Bon, c'est un autre
débat,
c'est un autre climat, c'est vrai.
Donc ça après, justement, on a été choisi pour peindre des toutes petites miniatures dans un village à Grézolles. Et on a parsemé une trentaine, entre 30 et 40 de toutes petites peintures adorables. Les gens au départ dans ce village craignaient, pensaient qu'on allait faire des tags, donc il y avait des gens qui disaient
ou
surtout
des frais,
pas
ce qu'on a supporté pendant 30
oui,
ans
et puis
qui
après quand on a commencé à peindre nos petits paysages très délicats, très très mignons, les gens venaient nous demander bon venez, il y a une bouteille de champagne qui vous attend, mais nous on veut vraiment une petite peinture sur notre boîte aux lettres ou sur notre porte. Et après, les gens déambulaient dans ce village à la recherche de nos petites peintures. Ça avait été une belle expérience.
Un jeu de piste. C'était un peu une antifresque, finalement.
Voilà.
C'était très, très sympa, ça.
Et la technique de Violette, là, selon l'expression consacrée, j'ai l'impression que la relève est assurée.
On n'entend pas, elle dessine depuis qu'elle est arrivée.
C'est ça, c'est du simple feutre, on dirait.
En fait, c'est parce que dans ma classe, il va y avoir une copine que j'aimais beaucoup qui va partir.
Ah, ben voilà, ça sert à ça aussi. Hein.
Et à l'école, on a appris à faire des petits livres en pliage. Et je lui ai écrit le numéro de téléphone de ma mère. Et à côté, je lui dessine un petit dessin.
D'accord. En cadeau de départ.
Oui, mais il reste encore des pages où je vais dessiner dessus. Je mettrai le cadeau de... le numéro de téléphone de mon papa avec un autre petit dessin qui ressemble et après je dessinerai des petits dessins.
Est-ce que je peux te poser une question vraiment terrible? T'es pas obligé d'y répondre.
Mmh.
Est-ce que tu préfères la peinture de papy ou de mamie?
J'ai pas trop de préférence.
T'aimes les deux?
Oui.
Alors pourquoi tu les aimes, ces peintures?
Parce que je trouve qu'elles sont réussies et que...
Bien faites, bien peintes.
Oui.
Et puis, elles donnent des belles choses à voir.
Oui.
On reconnaît tout ce qu'il y a dedans, toujours? Ah, il y a du métier, ça veut dire.
Un œil, c'est un œil déjà averti. Auditeur, ce n'était pas un instant de délire, et pourtant pourquoi pas, puisque je crois qu'on va écouter Fièvre résurrectionnelle, c'est très bien, de Thiéfaine sur l'album Supplément de mensonges. Et puis je crois qu'après ça, il nous restera encore 10 minutes pour parler en compagnie de Didier Numadrose et de Geneviève Garcia-Gallo. Ça doit faire une belle signature, ça, Geneviève, c'est 3G qui sont d'affilée comme
ouais,
ça.
Ouais, et puis quand on peignait à deux, on s'était nommé Gallo de Rose.
Ah, d'accord.
C'était pas à l'eau de rose du tout.
Quand même,
ça fait sourire pas mal de monde. Ouais.
Écoutons ce que dit Thiéfaine sur cette fièvre résurrectionnelle. Et puis nous poursuivons sur Radio Canu, toujours. C'est très bien, comme ça, voilà.
Sous un brouillard d'acier, dans les banlieues d'Izmir, de Suse ou Santa Fe, 6 milliards de pantins, au bout de la lumière, qui se met à rêver d'un nouvel univers. Et toi tu restes ailleurs, dans un buzz immortel, à fabriquer des leurs en fleurs artificielles, pour les mendiants qui prient, les dieux et les chimères, les trafiquants d'espoir aux sorties des vestiaires. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends, et le soleil se lève. Et le soleil dans un rideau de feu, dans les banlieues d'Oakland, de Cusco ou Montreux, 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie, avec des sonotones et des cannes assorties. Mais toi tu viens d'ailleurs, d'une étrange spirale, d'un maelstrom unique dans la brèche spatiale, avec autour du cou des cordes de piano et au poignet des clous pour taper le mambo. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil dans son plasma férique, dans les banlieues d'Hanoï, de Sfax ou de Munich, 10 milliards de lépreux qui cherchent leur pitance dans les rues de l'amour en suivant la cadence. Mais toi tu cherches ailleurs les spasmes élémentaires qui traduisent nos pensées comme on traduit Homère. Et tu m'apprends les vers d'Anna Akhmatova pendant que je te joue Kéja l'harmonica. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil ivre de ses vieux ors dans les banlieues d'un Cordos, d'où l'Ambator, 6 milliards de paumés levant la tête au ciel pour y chercher l'erreur dans un vol d'hirondelles. Mais toi tu planes ailleurs sur des nuages flous, dans de faux arcs-en-ciel vibrants de sable mou, qui chantent des arias d'espoir universel pour faire que le soleil se lève sur nos emails. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Le soleil là-bas sur l'horizon, venant d'Héliopolis, en jouant Hyperion, 6 milliards de groupies qui l'attendent hystériques dans le stade au jour J, en brouillant la musique. Mais toi tu squattes ailleurs dans un désert de pluie, en attendant les heures plus fraîches de la nuit. Et tu me fais danser là-haut sur ta colline, dans ton souffle éthéré de douceur féminine. Je t'aime et je te veux à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je te veux et le soleil se lève.
Je suis né à Le Coteau, moi.
Et voilà, c'est toujours comme ça, Gérald. Pendant les pauses ben, musicales, on n'écoute pas. Donc je ne sais pas du tout ce que...
Une chanson d'amour. Pourquoi ce choix?
Je t'aime ce que Tiefen je t'attends. Disait le sur soleil se lève. Oui, non, ça,
cette fièvre résurrectionnelle.
Elle est très drôle, j'aime bien l'écriture.
C'est un pastiche, non?
On ne sait jamais si c'est du pastiche. Parce qu'il y a une belle qualité d'écriture quand même. Donc, oui, il y a une sorte de valse un peu chaloupée en même temps derrière.
C'est peut-être un remake de ces vieux titres, Mon Amour.
Ça va faire la matière de la prochaine question, je crois, de Gérald. Encore 10 minutes, auditeurs, à passer en compagnie, en excellente compagnie, avec Didier Numadrose et Geneviève Garcia-Gallo. Il y a même Violette qui est avec nous.
Gérald, dessiner activement.
Une question à lancer à nos peintres.
Parce que j'étais en train de penser qu'on avait déjà reçu depuis que l'émission existe pas mal de peintres plasticiens, et c'était pour la plupart des paysagistes, où il y avait toujours une dimension paysagiste.
Nomme-les à nouveau.
Ils étaient peintres, on a reçu Elsa Guerreri. À ce propos, je tiens à signaler à nos auditeurs d'aller se précipiter voir une exposition à la galerie 28 rue Burdeau, où Elsa Guerreri expose.
La galerie 48.
Au 28 rue Burdeau, galerie 48, on ne va pas se tromper dans les chiffres. 48, qui expose avec un certain...
C'est une peintre.
C'est un peintre. Et j'ai oublié son nom. On s'en excuse, on mettra ça sur le blog.
On va le retrouver. Oui.
Bon, voilà. Donc Elsa est venue parler de paysage avec Elena Brugo. On a eu le peintre Jean Imhoff. On a eu différents plasticiens. J'en oublie sans doute. Mais la plupart étaient paysagistes.
Et donc,
Paggy Poira. Et voilà, j'aimerais poser la question. Si on vous dit à tous les deux, Didier Numadrose, Geneviève Garcia, le paysage, c'est ringard, ça sert à rien de faire du paysage. Votre peinture est trop classique.
C'est
has-been. C'est has-been. Vous dites quoi?
C'est dépassé.
Vous êtes plus dans le move de l'art contemporain.
Absolument. Ça, on le revendique.
C'est une position.
On est à contre-courant.
Vous êtes des réactionnaires.
On est absolument. On est à rebours, je dirais, plus que.
Et pas forcément. Il y a un retour au figuratif. Le dernier Mozart.
Il y a toujours des
remarqués sur la couverture. Grand retour du figuratif.
C'est de la pub pour Van Bozart. Mars, attention. Là, non.
Ah, oui,
non,
oui, j'ai vu tout à l'heure.
Mais quand même.
Non, non, simplement, bien sûr, on dit toujours qu'il y a la mort de quelque chose et que ça remonte après.
Ça ne meurt jamais, finalement.
Ça existe depuis très longtemps. On pensait que la peinture était morte après Duchamp, et puis elle a s'est très bien portée tout le XXe siècle, après avec l'invention de l'abstraction, avec Picasso.
Non, il s'agit de peinture figurative, je précise ma question. La figuration.
Je suis d'accord. La figuration, on en a toujours besoin, mais elle est encore plus nécessaire qu'avant.
Quand le monde nous échappe de plus en plus.
Quand le nombre se complexifie, quand la réalité se complexifie, quand la modernité perd de son sens, quand la réalité perd de sa présence en même temps, quand la réalité perd de son poids, de sa poésie. Je pense que le paysage, bon, c'est notre source, quoi. C'est notre source à tous, quand même. Bon, alors, on parle de paysage urbain, mais là, je ne parle pas de paysage urbain, je parle vraiment de paysage
naturel,
on peut dire, naturel, hein, où on sent quand même qu'il y a un rapport entre l'humain et une harmonie entre l'humain. Bon, on va retomber dedans, là. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement que d'avoir besoin de ces quelques parcelles de nature qui ont fait partie de la culture en même temps humaine.
Quoi. Les Grands Canyons de David Hockney, par exemple.
Alors, ça aussi, bien sûr.
Paysage contemporain.
C'est vrai. Oui, alors, il y a tout un travail de paysage éternel. Contemporain, bien sûr. Hein, non, mais ça, c'est pas...
En fait, je me fais l'avocat du diable aussi.
Non, mais on va voir, on monte à Paris voir l'expo de Kieffer ce week-end.
Bah oui,
Kieffer, qu'est-ce qu'il
peut... C'est un paysagiste,
c'est totalement un paysagiste.
Ravagé, certes.
C'est totalement un paysagiste. Hein. De toute façon, les grands peintres qui restent actuellement, que ce soit Barcello,
Richter,
Richter est quand même plus un portraitiste, mais qu'un paysagiste, mais il a aussi des paysages fabuleux, quoi. Donc c'est vrai, c'est vrai que le paysage, c'est quand même quelque chose qui reste
indémodable,
qui est en dehors.
Une constance.
Je me situe comme un peintre en dehors du temps quand même à ce niveau-là. Il y a une sorte d'achronicité de mon travail pictural et en même temps de la thématique du paysage. Alors c'est quand même, il y a une forme quand même de résistance. On peut même dire qu'il y a quand même une forme de résistance, hein, un peu de mauvaise. On sent qu'il y a une forme. Alors on peut pas parler de rébellion parce que c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. Mais cette manière de persister dans une thématique qui est quand même la thématique, peut-être la une des grandes thématiques picturales.
Et un métier.
C'est pas neutre. On en est conscient l'un et l'autre, quoi. On le fait pas comme d'une manière naïve.
Non, moi je pense
qu'on est totalement impliqué.
C'est une démarche
consciente
et revendiquée
totalement, quoi.
On peint avec une grande sincérité. C'est l'essentiel. On peint pas pour être dans la mouvance, dans la mode.
Voilà,
il faut être intègre et puis être au plus proche de soi, simplement.
C'est vrai.
Donc on se fait grand plaisir.
Une forme d'authenticité, quoi. Et l'authenticité, voilà. Nous on la trouve aussi, parce que le paysage, on habite souvent Lyon, mais on est quand même beaucoup, on l'utilise vraiment, on vit dedans, quoi. Alors j'en produis, j'ai un petit bout de jardin, enfin bon.
Et puis on est toujours dans l'émerveillement du paysage.
Mais on est continuellement dans l'émerveillement réellement, quoi. C'est vrai qu'on en a vraiment besoin. Il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on vive dedans quand même. On vit beaucoup dedans quand même. Énormément, quoi.
Après, je me faisais l'avocat du diable au sens où
on a bien compris,
et puis les débats entre la figuration et l'abstraction, c'est aussi des tiroirs faciles qu'on a essayé de faire. Il y a 3 semaines, on passait de la poésie, notamment des poèmes de Gerasim Lucas, qui s'est amusé à faire un livre, où il s'est amusé à faire des fragments de peinture classique, il y a très longtemps, déjà dans les années 60, je crois, 70, avant qu'il meure. Et on assistait à des merveilles de peinture abstraite, alors que ce n'était que des détails d'une peinture très figurative.
Bien sûr,
et la vision de près du détail.
Mais on peut prendre l'exemple de Richter.
Oui, il commence la peinture
qui
abstraite.
Qui fait des toiles immenses, complètement abstraites, avec une technique complètement différente, et des toiles complètement figuratives avec des portraits, des natures mortes, des vanités,
Voilà.
Un problème peut-être, c'est quand, on essaye de mettre un jugement de valeur et de supposer, de laisser entendre que l'un est supérieur à l'autre, peut-être c'est ça. Enfin, du moins, qui peut être gênant, oui, parce que sinon, enfin, il n'y a pas de, vraiment de débat.
Il y a eu un débat dans les années 50-60.
Et ça, puis 80 avec Jean-Claire, et après, qui passait pour un réactionnaire. Dans les années 90.
C'est vrai. Mais c'est fini, ce débat, il est plus là du tout. Hein. Le débat, il est clos, parce que là, il y a l'art officiel. Et puis il y a quand même encore il y a une énorme mouvance d'artistes artistes je dirais qui bricolent dans leur coin qui ne sont pas reconnus par les
c'est ce que dit Jean-Claire d'ailleurs, il dit qu'il y a au 20e siècle il n'y aura jamais autant de bons peintres qu'on aura complètement mis aux oubliettes parce que c'était pas la mode, parce qu'ils n'étaient pas dans les hautes sphères décisionnelles du pouvoir et qu'il y avait on les redécouvrira.
C'est pour ça que je parlais un petit peu de résistance quand même, parce que j'ai conscience quand même qu'on fait un métier de résistance à une certaine idée de la beauté aussi, parce que c'est un mot qui est très
on
n'en
a pas parlé
très,
encore
très,
il reste deux minutes pour parler de la beauté.
C'est un mot qui a été complètement dévalorisé.
Galvaudé.
Et je veux dire, bon, c'est vrai que la beauté et l'émotion, c'est quand même encore quelque chose qui nous, en tant que peintres, nous motive, nous porte. Voilà, quoi. Alors, il y a des tas de formes de beauté. Je suis très, très sensible à des tas de productions. Geneviève aussi. On passe notre temps dans des expos d'art.
Oui, vous êtes très contemporain, ouvert à plein de formes artistiques.
Voilà, c'est pas parce qu'on produit un type d'art qu'on est fermé au reste, oui. Au contraire, hein, on trouve de la beauté dans des tas de choses. Hein. On trouve dans la beauté dans des tas de choses, même des choses qui sont faites à base de papier à cigarette, par exemple, et d'os de chèche, tu vois.
Bon. Ah, du coup, ça a cloué le bec à tout le monde.
Et voilà, donc un petit peu de générique final, mais ce n'est pas encore terminé parce que je souhaite annoncer des dates. J'ai retrouvé son nom, le nom d'Olivier Giraud, qui expose donc en compagnie de Elsa Gurrieri pour l'exposition qui se nomme Au commencement. C'est intéressant, on voulait lancer un débat sur la beauté.
Deux paysagistes qui ont des points communs, des différences. J'ai vu l'exposition, elle dure jusqu'à tout février, début mars je crois, donc vous avez le temps d'y aller, mais allez-y, c'est intéressant à voir.
Et cette exposition, voilà, a commencé le jeudi 28 janvier. C'est en fin de journée, de 17h à 12h, à 21h, j'inverse les chiffres. C'est une exposition donc du 28 jusqu'au 12 mars. Et c'est intéressant, puisque le 12 mars, je crois bien que c'est la veille de votre vernissage, c'est ça, Didier?
Exactement,
du Madros,
tout à fait,
qui...
le 11 mars, le
exposition
vendredi, la galerie Jean-Louis Mandon.
Jean-Louis Mandon.
Vaucourt.
Et pour vous, Geneviève Garcia Gallo, ce sera un poil plus tard, au mois de novembre.
En novembre.
À l'automne prochain.
On en reparlera.
Voilà, j'ai Jean-Louis Mandon également.
Bon, donc on l'évoquera aussi. Rue Vaucourt, je ne sais plus quel numéro, après la,
15.
Au 15 rue Vaucourt, galerie de... qui expose régulièrement de très bons artistes.
Qui expose de très très bons artistes. La peinture essentiellement, mais aussi de la photographie.
Voilà. Un excellent artiste est déjà présent, c'est Pascal pour le Blues des Canuts. L'émission va commencer dans quelques instants. Restez à l'écoute des programmes. Il y a, je crois, tout à l'heure, là, l'émission On n'arrête pas le prog à 17h sur du rock progressif. À 18h, le méga combi. Et puis à 19h, le Canu Info, comme tous les mercredis. Et voilà, Gérald.
Oui. La semaine prochaine, du théâtre.
Du théâtre.
On aurait dû...
Tu as parlé de Saint-Étienne tout à l'heure. Je voulais rebondir sur Arnaud Meunier qui met en scène à partir de ce soir Le Retour au désert, une excellente pièce.
Une fois que je lisais une pièce avant.
Géniale, de Bernard Maricoltès. Ça commence le 3, ce sera encore donné la semaine prochaine.
Excellente
on
pièce.
En reparlera
texte,
peut-être.
En tout cas.
On va y aller, ouais, on essaiera. C'est au théâtre de Célestin. Voilà. Merci beaucoup. À vous deux.
Merci.
Geneviève. Merci beaucoup, Didier.
À vous trois, même.
À vous trois. Merci, Violette. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Et puis voilà, bon après-midi à tous et au revoir. Bye bye.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter. Pas d'enfance martyre. Personne m'a aidé. J'ai jamais été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais pourquoi? Pourquoi moi?